Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue aux amateurs de sport édition du jeudi 27 juin. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Évidemment, on est là jusqu'à 20h30. Fort chargé cette émission qu'on vous présente ce soir. On aura la chance d'avoir Christian Matt, joueur de ligne des Alouettes de Montréal. Vous savez, c'est le match numéro 2 demain, alors que les Alouettes affronteront les Tiger Cats d'Hamilton. Émission d'avant-match à compter de 19h sur l'ensemble du réseau Cogeco. Et là, c'est le match 2. On a perdu le premier, on est revenu dans le match, mais ça sera le match 2 face aux Tiger Cats d'Hamilton. Également à l'émission ce soir, vous savez, les gros canons canadiens font le bonheur du directeur du tournoi de la Coupe Rogers, Eugène Lapierre. Il sera avec nous, la Coupe Rogers, qui aura lieu du 2 au 11 août prochain. On parlera également dans quelques instants avec Vincent Destouches. On parlera du Okongo Show hier, parce que c'est lui qui a marqué à deux reprises pour permettre à l'Impact de Montréal, d'ailleurs un but tout simplement spectaculaire. C'est sûr que Wayne Rooney avec le DC United face à Orlando, OK, peut-être le but de la semaine, mais Okongo pas très loin derrière avec un but tout simplement spectaculaire. Donc, victoire de 2-1 face à Portland. Vincent Destouches sera avec nous. Mais il faut parler un petit brin de hockey parce que vous savez, ça sera le 1er juillet sous peu. Et d'ailleurs, à ce sujet, on aura l'occasion du côté du réseau Cogeco lundi le 1er juillet dès 11h avec Martin McGuire, eh bien, de vous présenter une émission spéciale dans le cadre de l'ouverture du marché des joueurs autonomes au menu entrevues et commentaires de nos experts hockey. Donc, un rendez-vous de 11h à 17h avec Martin McGuire lundi le 1er juillet prochain. Et là, pour appelons ça la chronique, potinons avec Marc-Antoine. Il est avec nous, Marc-Antoine Godin du site theathletic.com. Salut Marc-Antoine.
Bonsoir, comment ça va Jérémy?
Ça va super bien. Écoute, avant de commencer à potiner, il faut parler, il y a des dossiers très chauds là présentement dans la Ligue nationale d'hockey, entre autres les Hurricanes de Caroline qui ont racheté le contrat de Patrick Marleau. Et je tiens à me préciser, peut-être pour les gens qui sont pas au courant, là, il y a des répercussions pour les Hurricanes de la Caroline. En fait, c'est ce qu'on voulait, parce qu'on voulait aller chercher des sous pour atteindre le plancher salarial. Ce qu'on dit du côté des Hurricanes de la Caroline, devront absorber la totalité de son salaire sur leur masse salariale. De plus, les Hurricanes devront lui payer immédiatement un bonus de 3 millions en plus d'un montant de 833 000 répartis sur 2 ans. Je vous rappelle que du côté de Marleau, c'était 6 250 000 sur la masse salariale. Il reste 3 ans de contrat dans le cas de Patrick Marleau du côté des Hurricanes. Mais disons que Marleau n'avait pas le goût de jouer avec les Hurricanes, Marc-Antoine.
Non, ben écoute, je pense que ça devait être clair au moment où il a accepté la transaction que c'est ce qui se produirait, que les intentions des Hurricanes étaient claires, mais de leur côté, écoute, les Hurricanes ont tellement fait une bonne affaire avec les Maple Leafs en allant chercher Patrick Marleau, ils ont obtenu quand même un choix de première ronde conditionnel. C'est un gros prix à payer de la part des Maple Leafs pour pouvoir se débarrasser d'un gros contrat. Tu sais, à différents moments cette saison, Marc Bergevin a dit ah, ben j'aimerais ça répéter ce que j'ai fait l'été dernier dans le dossier de Yoel Armia puis de Chris Mason, d'être en mesure d'aller chercher donc des contrats un peu lourds puis d'aller chercher de la valeur en même temps. Mais tu regardes là, le contrat de Patrick Marleau, bon, c'est une autre gamme de joueurs, c'est une autre gamme de contrats par rapport à Armia puis Mason, mais quand même les prix ont augmenté parce qu'il y a des équipes qui sont prises à la gorge en ce moment. Et puis, dans les circonstances, les Hurricanes ont quand même assez bien fait parce que là, ils se sont libérés de l'argent pour pouvoir embaucher des joueurs à gauche à droite, pour pouvoir aussi peut-être répondre aux demandes salariales de Sébastien Aho. Donc, c'est quand même assez intéressant, mais le portrait a beaucoup changé dans la Ligue depuis un an. Là.
Si on regarde du côté des Leafs de Toronto, parfait, Dubas a joué fort, on a été chercher John Tavares, mais là, cette année, les Kings n'ont pas eu de choix de premier tour parce que, on était pas les Kings, mais les Leafs, pardon, n'ont pas de choix de premier tour parce qu'on a donné notre premier choix aux Kings de Los Angeles pour Jake Muzzin. Et là, cette année, l'année prochaine, plutôt en 2020, évidemment, c'est conditionnel si les Leafs terminent parmi les 10 premiers ou après les 10 premiers. Mais je crois qu'on va terminer parmi les 10 premiers. Donc, pas de choix de premier tour non plus en 2020. Disons que je suis pas sûr sur la gestion des Leafs de Toronto.
En fait, si le choix des Leafs est parmi les 10 premiers en 2020, il est transféré à 2021. Donc, il y a, à mon avis, il y a des chances qu'il soit transféré à 2021 parce que je serais très surpris que les Leafs détiennent un choix top 10 ou en première ronde du prochain repêchage. Ça va être quand même une forte équipe. Mais écoute, ils ont dilapidé des choix, mais à un moment donné, tu sais, c'est où est-ce que tu es rendu dans ton équipe? Les Maple Leafs, eux, tu regardes, ils ont quand même une belle brochette de joueurs qui sont dans la force de l'âge, qui ont 22, 23, 24 ans. C'est maintenant qu'ils doivent gagner, et puis c'est une réalité qui vraiment, je ne suis pas certain dans quelle mesure tout le monde dans le hockey était, s'attendaient à voir ça, mais avoir des équipes comme les Maple Leafs ou les Jets de Winnipeg qui n'ont pas encore gagné et qui déjà doivent trouver le moyen de liquider des salaires et de faire entrer tout le monde sous le plafond salarial, je pense que les Leafs vont y arriver. Le seul problème, c'est qu'est-ce qui va leur rester en matière de défenseurs. S'ils n'arrivent pas à signer Jake Gardiner, comment ils vont s'arranger pour pouvoir aller chercher une bonne brigade défensive? Mais tous leurs morceaux, tous leurs noyaux en attaque semblent demeurer intacts. Mais c'est frappant parce que tout le monde croyait, ah ben là, la méthode à suivre, c'est celle des Jets, c'est celle des Maple Leafs, se reconstruire, être patient, des jeunes, etc. Puis quand ils arrivent à maturité, ben on gagne le gros lot. Mais écoute, ils sont mieux de gagner parce que c'est sûr que ça va les rattraper avec leur manque de premier choix au cours des prochaines années.
Bon, mais c'est maintenant le temps de la chronique Patinon avec Marc-Antoine. Hier, Matt Duchesne était du côté de Montréal, semblerait. Et là, aujourd'hui, du côté de Nashville. Quand même un bon signe de savoir que Matt Duchesne a pris le temps d'arrêter à Montréal pour rencontrer la direction et être capable au moins d'entreprendre un brin de conversation.
Oui, ben écoute, je pense, il y a un intérêt mutuel depuis longtemps. Je pense que Marc Bergevin, depuis qu'il est à la tête du Canadien, regarde du côté de Matt Duchesne. C'est le genre de joueur qui plaît à l'organisation à cause de sa vitesse, de sa polyvalence également. C'est un gars quand même qui est fougueux, qui est passionné de hockey, qui n'a pas nécessairement eu toujours l'occasion de se faire valoir au sein de bonnes équipes. Quoique là, tu regardes Blue Jackets de Columbus, quand ils se sont retrouvés en série, le jeu de Duchesne a levé d'un cran. Et de son côté, ben écoute, Duchesne, lui, il l'a rappelé à quelques reprises à quel point c'est l'équipe de son enfance, les racines francophones de sa famille. J'ai aucun doute qu'il a été séduit et d'une certaine manière conquis par sa rencontre d'hier avec le Canadien. Mais là, au plan financier, au plan d'une équipe prête à gagner, il y a de la sérieuse compétition en provenance de Nashville et il y a bien du monde qui croit que Nashville demeure quand même favorite pour obtenir ses services.
Malgré le fait que sa place, son projecteur serait plus grand avec le Canadien, mais peut-être victoire à plus court terme, tu as raison, avec les Prédateurs de Nashville. Mais qui sait tout à coup que cette histoire d'enfance, cet amour d'enfance, on le sait, la famille de Matt Duchesne aimait le Canadien de Montréal. Est-ce que ça peut changer quoi que ce soit? Je ne le sais pas, mais du moins, l'option est toujours là.
Ben, je sais pas si les questions de pyjama d'enfance fonctionnent ailleurs qu'à Toronto, là.
Ouais, c'est ça.
Parce que on avait tous vu cette image-là de John Tavares quand il était jeune dans un pyjama des Maple Leafs ou était-ce des draps, je sais pas trop. Mais écoute, dans le cas du Duchesne, je pense que ça peut vraiment valoir la peine pour le Canadien de s'intéresser à lui et de lui offrir une offre, lui soumettre une offre. Mais j'ai seulement peur des montants qui sont impliqués. Parce que moi, les informations qu'on m'a données, c'est que Duchesne était à la recherche d'un contrat idéalement de 7 ans et que le contrat de Jeff Skinner avec les Sabres de Buffalo allait vraiment allait forcer le prix à la hausse. Skinner va gagner 9 millions par année. Et le clan Duchesne va dire, un instant, ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait nous plaire.
C'est beaucoup d'argent, mais quand tu as besoin de rapidité et peut-être un petit peu plus de punch sur l'avantage numérique, ça vaut la peine d'y réfléchir. Maintenant, Marc-Antoine, parlons des jeunes espoirs du Canadien, parce que le camp de développement se déroule présentement. Évidemment, il y a des matchs intra-équipe, ça vaut ce que ça vaut, là, en fait. Là, c'est des matchs simulés qu'on a en fin de journée. Mais on en a parlé brièvement, toi et moi, voilà quelques jours, mais écoute, il y a du gros talent quand même qui est là du côté de Montréal, là, de Brossard pour ce camp de perfectionnement.
Oui, absolument. Puis écoute, tu regardes, puis il y a des joueurs, il y a des joueurs qui commencent à être habitués à ce fameux camp de perfectionnement-là. tu regardes un gars comme Ryan Poehling qui a une attitude de grand frère. Lui, écoute, c'est la troisième fois qu'il est là, il sait ce qui se passe. Puis bon, je dirais pas qu'il est au-dessus de ses affaires parce que sur la glace, semble-t-il que dans les matchs simulés, il a été très, très efficace. Mais tu sens qu'il est prêt à passer un autre niveau dans sa carrière. Mais là, écoute, Cole Caulfield, évidemment, la coqueluche de ce camp-là, je pense qu'il ne mettra pas de temps, dès qu'il va arriver chez les professionnels, à faire sa place et à gagner le cœur des amateurs. J'aurais aimé ça. Écoute, il y a des choix. La liste, on parlait l'autre soir ensemble de la fameuse liste d'espoir qui faisait dire à Craig Button que le Canadien avait probablement le meilleur groupe d'espoir de la Ligue nationale. C'est sûr qu'il y a des hauts choix au repêchage qui sont intéressants, mais tu regardes s'il y a des choix plus qui ont été faits plus loin. Il y a un choix de septième ronde qui s'appelle Brett Stapley, que le Canadien en très, très haute estime. C'est un gars qui a joué, Stapley a joué l'année dernière à l'université avec l'université de Denver. Et puis, ils sont très enthousiastes par rapport à lui. Malheureusement, c'est la deuxième année de suite qu'il est blessé au camp de développement. Mais ceux qui sont sur la glace, écoute, tu regardes un gars comme Joel Teasdale qui a été une heureuse surprise. Lui était là l'année dernière au camp de développement. Il a fait une bonne figure au camp d'entraînement. Il a forcé la main du Canadien. Ils lui ont fait signer un contrat. Puis là, il s'en va à Laval. Puis il y a tout un groupe. Teasdale n'est pas le seul. Il doit y avoir une demi-douzaine de ces joueurs-là qui vont aller à Laval cette année, qui vont renouveler le groupe d'espoir dans la Ligue américaine. Donc, ça s'annonce vraiment excitant là, pour toute l'organisation.
Là, je suis obligé de me dévoiler, Marc-Antoine. J'ai écouté le match préparatoire sur les ondes de RDS, sur le site Internet. Donc, oui, je suis un malade mental. J'ai regardé un match blanc contre rouge. Oui, mais écoute...
Il y en a beaucoup à ce temps-ci.
Oui, quand même. Hein? Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, écoute, Ryan Poehling était dans une classe à part. Premièrement, il y avait une confiance incroyable. On sentait vraiment, il dominait sur la patinoire. Dans le cas de Cole Caulfield, ce que j'ai vu personnellement, je me suis dit, quand ce gars-là va jouer avec de meilleurs joueurs, ce sont de bons joueurs, mais de vrais joueurs de la Ligue nationale de hockey, lui, souvent, il était à bonne place, mais les autres n'étaient pas nécessairement bien placés non plus. Fait que je me suis dit, lorsqu'il sera avec des pros, ça serait intéressant à voir. Mais pour l'instant, écoute, c'est blanc contre rouge, là.
Oui, ben c'est ça, exact. Sauf que je pense pas que ce soit vraiment une question de qualité de joueur. C'est sûr que, écoute, dans le programme américain, surtout celui de cette année, c'est un programme haut de gamme. Il y a huit joueurs du programme américain cette année qui ont été choisis en première ronde. C'est du jamais vu. Mais écoute, la gamme de joueurs qui sont au camp du Canadien, ce sont en général d'honnêtes joueurs de hockey. La différence, j'en parlais avec Caulfield ce matin, il dit, une des meilleures, outre mon lancer, ce qui me permet de marquer des buts, c'est que je me fais oublier. Je suis capable de disparaître en zone adverse. Mais pour être capable, après ça, d'être retrouvé par ses coéquipiers, ça prend une chimie. Et la chimie, c'est quelque chose qui est complètement absent dans les matchs simulés du camp de perfectionnement. C'est des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. C'est des joueurs qui, bien souvent, ça fait des semaines qu'ils n'ont pas été sur la glace. Alors, la cohésion est à peu près impossible à trouver. Mm-hmm. Donc, c'est certain que dans ce contexte-là, un gars comme Cole Caulfield n'est pas vraiment dans la meilleure des positions pour venir compléter les jeux de ses coéquipiers.
Dis-moi, Marc-Antoine Godin, tu l'as vu, Caulfield. Écoute, évidemment, on connaît son physique, mais comment tu l'as perçu? Il me semble quand même très confiant en ses moyens.
Oui, absolument. Puis ça, c'est tellement encourageant parce que tu veux, il y a toujours une fine ligne entre être confiant puis être cocky. T'sais, tu veux pas quelqu'un qui se pense tellement meilleur que les autres qu'il va être lourd auprès de ses coéquipiers. Ça, je pense que c'est le Canadien s'en méfie comme la peste. Mais en même temps, tu veux avoir un gars qui a confiance en ses moyens, qui sait où il s'en va et qui ne se mettra pas en doute trop souvent, qui va être prêt à être coaché, qui va être ouvert à travailler pour s'améliorer, mais qui en même temps a une force intérieure de dire « Voici le genre de joueur que je suis, je sais qui je suis, je sais où je m'en vais et je fonce. » Et Caulfield est comme ça. Puis tu sais, souvent, Marc Bergevin parle de caractère, puis il parle d'intangible. Puis là, on était à l'occasion du repêchage, on a parlé de la séance d'entrevue au Combine il y a quelques semaines. Ça, c'est le genre de choses qui est vérifié à cette occasion-là. Puis les recruteurs le vérifient également à longueur d'année par la façon de jouer du joueur. Est-ce que le joueur, dans sa façon de jouer, affiche de la confiance? Mmh. Alors, c'est une valeur extrêmement importante au sein de l'organisation. Caulfield, là, écoute, il y a des joueurs, un gars comme Rhett Pitlick, un choix de cinquième ronde, oui. Il l'a, Poehling, ça lui sort par les oreilles. Tu sais, et donc ces gars-là qui exultent de la confiance, c'est très, très bon signe pour le Canadien parce que tu vas avoir des gars qui ont des habiletés, qui ont du talent, mais qui prennent les moyens psychologiques pour les exploiter au maximum.
Est-ce qu'on a abordé avec Caulfield la possibilité, en fait, à savoir ce qu'il veut faire la saison prochaine? Parce qu'on disait que c'était pas encore déterminé à 100%. On sait que l'option de la NCAA est là. Est-ce que, étant américain, peut aller du côté de la Ligue américaine de hockey, est-ce que son choix est très défini?
Ben en fait, pour l'instant, son choix n'est pas arrêté. Je pense qu'il continue de pencher sérieusement en faveur de l'Université du Wisconsin. Son frère joue là, donc il serait coéquipier avec son frère. Je pense que depuis le début, c'est un petit peu le chemin qui est prévu. On a entendu parler aussi, écoute, il y a des droits dans la Ligue canadienne qui appartiennent aux Greyhounds de Sault-Sainte-Marie. Est-ce qu'ils regarderaient de ce côté-là? Ça, j'en doute, parce que je suis pas certain qu'un gars dont le principal obstacle à la Ligue nationale en ce moment, ce soit le développement physique, qu'il gagnerait vraiment à aller marquer des buts dans la Ligue de l'Ontario où on joue beaucoup de matchs, mais on a quand même moins l'occasion de se développer physiquement. Mais écoute, dès le début du camp, il a dit, écoutez, moi je suis là, c'est sûr, pour impressionner la direction, puis arriver dans la Ligue nationale le plus tôt possible. Alors c'est sûr que si Marc Bergevin disait, OK, on te fait signer un contrat, puis go, tu t'en viens avec nous en septembre, il dirait pas non, il serait très content, mais en même temps, il y a une dose de lucidité dans tout ça, de dire, ça se peut que je demeure dans les rangs amateurs pour au moins un an encore. Alors, les options, je pense qu'il n'y a rien qui est coulé dans le béton, puis c'est normal qu'ils veuillent se garder des portes ouvertes, mais ça continue d'être l'Université du Wisconsin qui est sa destination la plus probable, je te dirais.
En terminant, dernière question sur Caulfield. Tu l'as vu, on le sait, c'est 5 et 7. Mais point de vue gabarit, comment tu l'as senti? Est-ce que tu sens qu'il est fait solide?
Oui, bien écoute, il y a besoin d'en prendre encore du gabarit, mais moi, je regarde souvent la largeur des épaules et puis la largeur du thorax également. Des gars, le haut du corps, il faut que tu sois capable de, comme on dit, à défaut d'un meilleur terme, de le remplir. Il y a des gars qui ont des charpentes qui sont minces et qui ont beau être grands, sans qu'il y a des limites à leur coffre. Tu as des gars qui sont 6 pieds 4, tu te dis, oh, lui, il va être imposant, puis tu réalises après, quand ils ont 25 ans, qu'ils sont juste demeurés des grands fouettes parce qu'il n'y avait pas cette largeur-là. Lui, il a une bonne largeur d'épaule. Je pense que c'est un gars qui va être capable aussi d'avoir un centre de gravité assez bas, puis qui va être solide sur ses patins. Je te dis pas qu'il va devenir aussi solide que Martin Saint-Louis, parce que lui, c'est un freak dans le gymnase, mais s'il s'y prend de la bonne manière, il pourrait quand même aller chercher suffisamment de force physique pour ne pas se faire tasser facilement. Puis dans l'organisation du Canadien, il y a un gars qui pourrait lui donner de bons conseils, Francis Bouillon.
Marc-Antoine Godin, écoute, la prochaine fois qu'on se croise, tu regarderas mon chest, mes épaules, tu me diras si je peux m'en donner, peut-être espérer la Ligue nationale. Mais regarde pas plus bas parce que c'est la bédaine qui est le problème. C'est ça, Marc-Antoine.
Ah oui, c'est ça. C'est ton bas du corps, toi aussi.
Exact.
Quand le haut du corps est sur le bord de devenir un bas du corps, il y a un problème.
Il y a un problème. Marc-Antoine Godin, du site The Athletics, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Fait plaisir, bye-bye.
Merci, on s'arrête quelques instants. Au retour, hier, c'était le Okwonkwo Show. Il a marqué deux fois. L'Impact bat Portland avec un but spectaculaire. On en parle au retour avec Vincent Détouche.